sujet.
Excusez-moi de vous déranger, mais on m'a parlé d'un appartement.
Il y aura du béton impeccable et du béton mal fichu. Ce qui reste, c'est ce qu'il y a d'architecture dedans. Et tout le problème est là-dedans. Qu'est-ce que vous avez voulu me dire ?
Le génie des lieux. Camille Jusa, Lionel Quentin.
Porte numéro 47. Et dans peut-être dans 10 ans, on foutra ça en l'air, monsieur, comme par le passé. Car c'est une honte. Regardez-moi la tête que ça a. On dirait une triphilerie de pétrole.
Mais c'est gentil aussi.
Et les conditions, vous les connaissez ?
Ben, il y aura un supplément pour l'eau, la plomberie est toute neuve.
L'architecture, on la ressent. On la ressent physiquement.
La porte.
Les habitations bon marché, les briques rouges, ceinture Paris.
Ça, c'est chez vous derrière ? D'accord. Est-ce que vous habitez là ?
Oui, on habite sur place.
Oui. Vous, qui êtes la gardienne de ce groupe d'immeubles, ça fait combien de temps que vous êtes là ?
Alors moi, ça fait 15 ans que je suis ici. Je suis arrivée en 2002. Sinon, ça fait 20 ans que je suis gardienne, mais sur le site, ça fait 15 ans.
Et en arrivant ici, est-ce que vous connaissiez ce qu'on appelle les HBM, c'est-à-dire ces immeubles en briques qui ceinturent Paris ?
Pas du tout. Je venais d'un immeuble moderne. Et c'est vrai qu'en briques rouges, c'était la première fois que je suis arrivée sur le site. J'ai découvert tout, j'ai appris, parce que j'étais très innocente de la structure, des habitations, du parquet. Je ne connaissais pas le parquet. Enfin, je connaissais du parquet, mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir un logement à Paris avec autant de parquet. Je pensais que ça aurait été le parquet l'aurait été recouvert d'un lino, vous voyez, et dans les cuisines et salles de bain encore le carrelage d'époque. Voilà. Mais moi qui je suis du nord de la France, briques rouges, ça me parle étant donné que dans le nord les maisons sont tous en briques rouges, donc mais sinon c'est une très belle structure.
Ouais. Qu'est-ce que vous êtes dit la première fois qu'on vous a proposé un boulot ici ?
Superbe. J'adore, c'est chaleureux. Et toutes ces petites cours, enfin moi j'aime, donc c'est le portillon, je trouve ça super beau, chaleureux.
Marie-Jeanne Dumont, tout le monde connaît le boulevard périphérique. C'est une manière de circuler autour de Paris. C'est donc cette ceinture autoroutière autour de Paris. Quand le périph est saturé, on sort et on circule sur les Maréchaux, c'est-à-dire un boulevard circulaire entre le périphérique et Paris. Et là, pour les gens qui ne connaissent pas forcément, entre Paris et le périph, il y a quasiment tout autour de cette ceinture, des constructions en briques et béton, très répétitives. Alors parfois la brique est rouge, parfois la brique est beige, mais c'est une caractéristique de Paris qu'entre l'intérieur de la ville et le périphérique, il y a cette petite ceinture de HBM, les habitations bon marché, qui est une grande opération qui date des années 20 et 30. Là, nous sommes à Porte d'Orléans. Qu'est-ce qu'on peut décrire de cet endroit-là, qui est là, ce qu'on voit là, c'est que c'est entièrement construit en briques, en tout cas.
Alors, c'est une ceinture d'une centaine de mètres, 100 mètres, 120 mètres à peu près, construite d'habitations et beaucoup de logements sociaux. Sociaux ou plus ou moins sociaux, parce que dans l'entre-deux-guerres, on a commencé à segmenter le logement social en fonction des catégories à loger, des très pauvres, moyennement pauvres, classe moyenne. Alors pourquoi cet anneau de construction ? Eh bien, cet anneau reprend exactement l'emplacement des anciennes fortifications de Paris qui avaient été construites sous la monarchie de Juillet et puis qui s'étaient révélées très vite inutiles d'un point de vue militaire. Et on a besoin de terrain à bâtir, donc on programme de démolir les fortifications. On s'est beaucoup écharpé sur le problème du projet de remplacement, pour aboutir au début du XXe siècle, un peu avant la Première Guerre, à l'idée d'un anneau bâti, mais pas de logements sociaux forcément. À l'origine, ce projet, ça devait être des logements bourgeois, grands bourgeois. On aurait fait des terrains à vendre et des spéculateurs auraient acheté, des sociétés immobilières auraient acheté, lotis, construits, vendus.
Alors, il y a combien de cages d'escalier dans cette cour d'immeuble ?
Alors, il y a 6 cages d'escalier.
Et combien d'habitants ?
D'habitants, il y en a pas mal. Il y a 110 logements, donc ça varie entre une personne jusqu'à, on va dire, 7.
Et quand vous dites, j'ai trouvé ça très beau, qu'est-ce que vous aimez le plus ?
Moi, ce que j'aime le plus, c'est les façades. Enfin, tout en fait. Même la cage d'escalier, la rampe noire avec les rosaces. Je trouve ça super beau. Bon, nettoyage, c'est plus difficile parce qu'il faut aller dans les petits creux, bien sûr, moi, en tant que gardienne. Mais sinon, si vous voulez, quand j'arrive et je vois la cage d'escalier, les escaliers en bois, les rampes, la façade en briques, tout, en fait.
Ici, c'est un côté très bourgeois, presque.
Oui, effectivement, pour moi, oui. Ça fait bourgeois, oui. Voilà 15 ans, mes premières visites, j'étais très fière de faire voir aux futurs candidats le logement qu'on proposait. Ouais. Oui, très fière. Quand ils arrivent déjà dans le logement, qu'ils voient le parquet, ils disent « Oh, ça fait chaud, c'est beau, les anciennes cheminées, nous avons encore les anciennes cheminées. » Aussitôt, ils trouvent l'appartement très beau.
Vous nous montrez les détails que vous aimez ici ?
Oui.
Vous nous montrez.
D'accord, on y va.
La zone avec une majuscule et que tout le monde connaît jusqu'aux années 20, c'était des terrains qui étaient de propriété privée mais étaient réputés ou inconstructibles à cause des servitudes militaires. Donc voilà, ce sont des terrains grevés d'une servitude non édificandie, comme on dit en termes d'urbanisme, donc on ne peut pas construire.
Entre les fortifications et la banlieue ?
Entre les fortifications et la banlieue, 250 mètres, qui auraient dû rester libres, mais qui, au cours du temps, entre 1840 et 1920, se sont petit à petit remplis de bicoques, d'un immense bidonville. Donc on construit allègrement sur des zones inconstructibles. Et donc les logements qu'on pensait faire sur la bande de 100 mètres le long des boulevards des Maréchaux auraient dû bénéficier de cet environnement d'espace vert. Mais finalement, la conjoncture politique et économique de l'entre-deux-guerres fait que cette opération ne s'est pas réalisée selon les projets. D'abord, on n'a pas réussi à vendre les terrains. Les spéculateurs privés ne se sont pas présentés parce que l'immobilier n'est pas rentable à l'époque. Le rendement avoisine zéro. Donc personne ne se présente. Ensuite, ils n'étaient pas pressés d'acheter ces terrains tant qu'il y avait le bidonville à côté. Et troisièmement, la crise du logement est si aiguë après la Première Guerre mondiale que la ville de Paris considère qu'on ne peut pas limiter les opérations de logement social à du logement ouvrier. Donc on va se mettre à... La ville de Paris va méditer un projet dans lequel on construit du logement pour les ouvriers, les très pauvres, les ouvriers salariés un peu plus aisés. Et puis la ville, en partenariat avec des banques et des consortiums de constructeurs, va petit à petit lancer une opération dite pour classe moyenne, avec des immeubles dits à loyer moyen ou à loyer modéré, dotés de plus de confort. Et ces logements, petit à petit, vont recevoir des terrains, ces terrains qu'on n'arrive pas à vendre.
Alors, C'est quand même très sécurisé, hein, ici.
Oui. Alors, on a des badges et puis des codes. Donc des codes différents sur toutes les portes d'entrée. Et le badge, on peut ouvrir que à sa cage d'escalier, pas à côté.
Donc c'est ça que vous aimez, hein, ce que vous disiez, les rosaces. C'est
voilà, les rosaces.
Oui.
Les décorations, les rampes. Le rustique est toujours là, quoi. Puis on retrouve aussi le tapis, ça fait quand même...
Tapis rouge en escalier.
Voilà.
C'est chic.
C'est très chic.
Bonjour.
Bonjour. On va rentrer dans le salon, comme ça c'est plus simple.
Est-ce que vous nous faites un tour du propriétaire?
Rapidement, oui. Venez. Donc, salle de bain...
Au sixième étage, que voit-on ? Un beau cinq pièces qui s'ouvre sur un grand vestibule, un double salon. C'est sûr, on se donne des airs de bourgeois ici. En 1928, l'appartement a été livré avec tout le confort moderne, comme on disait à l'époque. Salle de bain avec baignoire, cuisine avec évier. Ici, tout est encore d'origine. Le 43 avenue Ernest Rière regarde fièrement vers le sud, côté Porte d'Orléans, côté banlieue. Et surtout, à l'origine, vers ce grand parc qu'on avait prévu et qu'on a finalement rempli de tas d'équipements. Quelques squares, certes, mais aussi des stades, des collèges, des cimetières et surtout, dans les années 70, ce voisin inattendu et bruyant, le périphérique. Et c'est vrai qu'en matière de parc, on a fait mieux.
Alors, vous donnez sur la porte d'Orléans, au sixième, avec un balcon, des fenêtres arrondies.
Oui, c'est plutôt bruyant.
Comment vous êtes arrivé ici, en fait ?
Ben nous, on était inscrits depuis 8 ans dans la ville de Paris. Auparavant, on habitait dans le quartier. On louait un appartement à peu près de la même surface, mais 3 à 4 fois plus cher, dans le privé. Et nos revenus ayant brutalement baissé, c'était urgent de déménager. Donc tout est tombé à pic.
Et vous aviez fait une demande pour cet endroit ?
À Paris, comme la plupart du temps dans les offices HLM, vous devez prendre ce qu'on vous propose.
Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vous êtes dit quand vous êtes venu ici pour la première fois pour visiter cet appartement ?
J'espère qu'on n'habitera pas ici.
Pourquoi ?
Bah, la proximité de la porte d'Orléans. On a vu tout de suite, quand on a visité, on s'est dit waouh, porte d'Orléans, là on a gagné la circulation vraiment, quoi. Et les sirènes. Heureusement qu'il y a de bons double vitrages, bah, on y est bien, quand même. Pas non plus, on a un toit, c'est bien.
C'est-à-dire que c'est fonctionnel, c'est fonctionnel.
Bah, ce qui est bien, c'est déjà la luminosité. Très important. C'est un appartement fonctionnel et plutôt agréable. Je remets une couche à part le bruit quand on ouvre les fenêtres.
Marie-Jeanne Dumont, on a donc pénétré grâce à un code, on a des badges en effet, ce sont des immeubles très surveillés. On est au milieu d'une cour avec un très grand pan. Qu'est-ce qui vous frappe dans cet immeuble ?
Eh bien, ce qui me frappe, c'est que l'intérieur de la cour est presque aussi décoré que l'extérieur. On voit une construction très soignée, il y a de la ferronnerie aux fenêtres. Contrairement aux immeubles haussmanniens, où vous aviez tout le décor était placé sur rue et les intérieurs de cour étaient beaucoup plus pauvres, hein, en matière de matériaux et de décor.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet îlot-là et comment c'est dessiné ?
Alors, ça répond à plusieurs logiques. Une logique de fragmentation des opérations. On ne veut pas qu'il y ait d'opérations trop grandes, donc on coupe en petits îlots. L'idée est qu'il n'y ait pas plus de 300 logements dans un îlot et des opérations sous la surveillance de gardiens dont on considère qu'une concierge peut gérer 100 logements. Pour que tous ces petits îlots aient un peu de soleil, on va décider de faire, et ce sont des doctrines hygiénistes d'avant-guerre qui ont amené à cela, des îlots ouverts. Hein, donc l'îlot n'est pas complètement fermé, il n'y a pas de cour fermée, parce qu'une cour fermée reçoit peu de soleil, et le soleil est jugé être vraiment la seule manière de lutter contre la tuberculose, donc vraiment le matériau de l'urbanisme moderne, hygiéniste, c'est le soleil.
Et d'ailleurs, cette composante médicale quasiment, enfin de lutte contre la tuberculose, ça va être essentiel au XIXe siècle pour déclencher du logement social. On peut dire que l'origine des HBM est peut-être là.
Après la Commune de Paris, bien entendu qu'aucune politique de logement social ne se fait jour. La Troisième République se désintéresse totalement du problème.
Pourquoi ?
Parce qu'on craint la sédition. Voilà, on craint une nouvelle sédition. Tous les 15 ans, quand même, le peuple se soulève dans Paris. Et donc, on a de mauvais souvenirs. Et la Troisième République considère que voilà, c'est le problème est plutôt d'exiler les communards que de les loger. Et finalement, c'est la société civile, plutôt que l'État, et d'ailleurs contre l'État, qui décide de reprendre en charge le problème. Et donc, c'est la tuberculose qui va devenir le levier grâce auquel on trouve des financements. Donc ça commence vers 1880-90. Ce sont de grandes fondations philanthropiques qui vont prendre en charge l'invention de nouveaux modèles de logements pour les ouvriers, des logements hygiénistes, bien entendu, et qui centraliseraient autour de l'appartement familial toute une politique d'hygiène et d'éducation. La société qui a mis en œuvre ce programme-là s'appelle Fondation Rothschild. Et les quelques opérations de la Fondation Rothschild ont servi de modèle ensuite aux opérations municipales.
Colette Laurie, vous êtes arrivée ici quand ?
On est arrivée à la naissance de ma fille, qui c'était donc en 1976. C'est vrai qu'on a été un petit peu aidé par ma sœur qui travaillait à ce moment-là dans l'équipe de Giscard pour son élection, je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'on a été
un peu pistonné.
Pistonné, voilà, c'est le terme qui m'échappait. Et ici, cet immeuble, c'était spécial. C'est pas comme les immeubles juste en face. Ici, c'était les immeubles qui étaient attribués aux gens qui travaillaient dans les administrations. Donc, c'était pas du tout pareil que ceux qui habitent en face, qui étaient vraiment des HLM. Et chacun était quand même chez lui. Non, on n'avait pas le droit. Les enfants n'avaient pas le droit de jouer dans la cour. Ça, c'était un truc incroyable. Ma fille aurait voulu pouvoir faire du vélo, des choses comme ça, et moi aussi, mais c'était interdit. Donc il fallait garder un certain mode de vie, disons, calme.
Qu'est-ce qu'on peut dire de cette architecture d'une manière comme ça, très générale ? On est donc au milieu de cet îlot, on peut dire que c'est quand même très dense, et il y a quand même une recherche dans les façades, des motifs de décoration, même si ce n'est pas extrêmement luxueux, il y a de la décoration, il y a une attention aux façades.
Oui, oui, ce sont des immeubles presque aussi denses que les immeubles du centre de Paris. Ce n'était pas ce qu'on avait imaginé à l'origine sur la ceinture de Paris, on avait plutôt imaginer une sorte de cité-jardin, des immeubles de trois niveaux, beaucoup de jardins, beaucoup de plantations. Et puis finalement, le coût de la construction a tellement augmenté dans la période de la guerre et les années 20 que si on veut faire du logement social, il faut redensifier. Donc les bailleurs sociaux ont été contraints de doubler le nombre d'étages et on va finir par exploiter au maximum les gabarits, les règlements d'urbanisme. Donc on va 6, 7, 8 étages. Mais on garde une architecture très classique, typiquement parisienne, issue de la période haussmannienne. Les étages qu'on appelle les étages carrés, le corps principal de l'immeuble en briques, parce que ça ne demande pas d'entretien et que ça résiste bien dans le temps et que ça reste un matériau économique. Et puis en haut, des combles à la mansarde, même s'ils n'abritent pas de chambre de bonne. Encore que dans certains immeubles pour classe moyenne élevée, on a aussi mis des chambres de bonne. Et quant au décor, eh bien, c'est typiquement de l'art déco. C'est très à la mode dans les années 20. Un décor avec une ferronnerie de grande qualité, un petit peu de modénature en briques, mais tout ça, voilà, assez austère malgré tout, puisque le coût de la construction est tellement élevé qu'on ne peut pas non plus faire un décor trop abondant.
D'ailleurs, c'est un débat, alors que ces immeubles, les habitations bon marché, sont à destination d'une population pauvre, il y a tout un débat sur faut-il décorer ces immeubles.
Le consensus architectural au début du siècle, c'est que le logement social ne doit pas se distinguer d'un logement bourgeois. Il ne faut pas, et surtout dans le cas des opérateurs publics, on ne veut pas que le locataire, sous prétexte qu'il est dans un logement public, et le sentiment que puisque c'est public, c'est gratuit. Donc, pour que le locataire n'ait pas cette idée tout à fait dangereuse, on a préféré que son logement ressemble à un immeuble bourgeois. Voilà, c'est un immeuble comme un autre, il y a une gardienne comme partout, et vous devez payer vos loyers. Voilà.
Donc là, on trouve bien que là, chez les locataires, il y a bien les rosaces sur les rampes.
Ouais.
Et là, pour aller aux chambres de bonne, il n'y en a plus. Donc on voit déjà...
Et puis là, en effet, là, on est dans l'escalier principal avec le tapis rouge. Mais en fait, sur la façade de l'immeuble, il y a un escalier de service, l'escalier pour les bonnes, justement.
Oui.
Voilà, il y a quand même deux escaliers.
Deux escaliers différents, une porte pour les bonnes et une porte pour les locataires.
Ah, il y a une porte pour les bonnes ?
Oui, on va aller voir si vous voulez. Donc là, on monte jusqu'au 8e, vous voyez, il n'y a plus de tapis maintenant, c'est le bois. Donc.
Donc là, voilà.
L'escalier de service est à air libre. C'est la voie pour sortir ses poubelles et permettre à la femme de ménage de rentrer sans interférer sur le flux des visiteurs ou des familles. Et ça, c'est un élément du mode de vie bourgeois qui est évidemment très critiqué. Comment se fait-il qu'on soit obligé de payer avec, sur un budget public ou partiellement public, des appartements bourgeois. Donc c'est un élément qui était extrêmement critiqué à l'époque.
Les gens qui avaient dessiné ça, quelle a été leur réponse à cette critique ?
Eh bien que les classes moyennes ne trouvaient plus à se loger. Donc il ne s'agit pas d'une œuvre sociale, mais de pallier momentanément le déficit de la promotion immobilière.
Dominique Delabrouille, on a grimpé chez vous parce que c'est vraiment grimpé. On est au 7e étage de cet immeuble. Et à cet étage-là, c'est un peu particulier parce que dans le salon, hein, qui est le décalque des appartements qu'on a pu voir en dessous, il y a un escalier et qui va vers un atelier d'artiste. C'est
tout
ça
fait. Oui, oui, tout à fait.
Vous nous montrez ?
Ah, bien sûr. Allons-y.
Alors, l'été, c'est terrible. C'est une chaleur... Mon atelier, mes vieux rideaux parce que j'ai pas les moyens de les changer pour l'instant.
Donc double volume,
oui.
Des grandes verrières, un grand mur vitré avec une verrière.
L'été c'est du 50 degrés.
Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un esprit vraiment quasiment Montmartre hein, dans la... Ici, oui, enfin, dans les vitres, les menuiseries comme ça en métal.
L'atmosphère.
Une atmosphère. Ouais. C'est vraiment l'atelier d'artiste. Parce qu'en fait, ces appartements avec atelier au-dessus sont réservés aux artistes.
Normalement, oui, normalement.
Comment on faisait pour avoir un atelier d'artiste dans les HBM? Il fallait être répertorié.
Oui. Moi, je peignais déjà. Ils m'ont demandé, à l'époque, ils m'ont demandé... j'avais exposé. Ils m'ont demandé mes petits cartons et tout. Et comme j'étais professeure aussi dans les lycées d'art graphique à Corbizard, j'avais tout. Donc, ça allait. Mes trois enfants, je bossais... Enfin, je peignais, etc. C'était bon, je pouvais venir.
Marie-Jeanne Dumont, Le Corbusier, en 1935, dit les trop fameuses HBM des fortifications, désastre architectural et désastre urbanistique, monstre créé à la barbe de la population et du pays, on reste stupéfait, personne ne proteste, des milliers de familles se sont encavées dans ces taudis tout neufs, des milliers de familles ne verront jamais le soleil.
Oui, l'expression est brutale, mais il faut bien se rendre compte qu'il n'est pas le seul à penser ça. Cette opération de la ceinture a été critiquée immédiatement et de façon très très générale dans beaucoup de milieux, des urbanistes, des architectes, des élus. Des campagnes de presse ont été faites contre ces bâtiments. Voilà, ce sont des bâtiments avec une densité de centre-ville. Alors à quoi bon ? Puisque à l'époque, tout le monde pense que le XXe siècle sera un siècle de dédensification de la ville. Or, le coût de construction et l'économie de l'opération de construction de la ceinture de Paris obligent à redensifier. Donc c'était un paradoxe qui était aperçu par tout le monde.
Avec quasiment 100 ans de recul, qu'est-ce que vous portez comme regard sur cette opération-là?
Alors, on n'a pas eu à attendre 100 ans pour réévaluer cette opération, car dans les années 70, après la faillite des grands ensembles, on a regardé la ceinture de Paris avec d'un tout autre œil. Et on a trouvé que finalement, ces bâtiments en briques, assez denses, certes, mais quand même assez hygiéniques, de bonnes surfaces intérieures, qui participent du tissu urbain, sans être contre, qui n'émergent pas du vélum, comme on dit, des toits de Paris, eh bien, on leur a trouvé beaucoup, beaucoup de qualité.
C'était Le génie des lieux, les habitations bon marché, les briques rouges, ceinture Paris. Merci à Marie-Jeanne Dumont, professeure d'architecture, à Stéphanie Bleuze, Jean Bernard, Dominique Delabrouille, Colette et Sarah Laurie, Nicolas Joly. Prise de son Gilles Gallinaro, mixage Bernard Laniel, réalisation Lionel Quentin, une émission de Camille Jusa. Le génie des lieux, ce podcast et se réécoute bien sûr à toute heure et où que vous soyez sur franceculture.fr. On vous a laissé à la page de l'émission quelques photos. La semaine prochaine, une utopie réalisée. Oui, celle d'un entrepreneur dont l'ambition était de panser les plaies du capitalisme. Excusez du peu. Pour l'épisode 4 de cette saison 2 du génie des lieux, nous serons familistère de Jean-Baptiste Godin à Guise dans l'Aisne. À la semaine prochaine.